Salut et bienvenue dans Du Temps et des Jeux, le podcast qui s'intéresse aux jeux vidéo qui ont le plus marqué nos invités. Moi, c'est Chris, et comme toujours, je suis accompagné de Yann.
Hello.
Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Carl Edwin Michel. Carl Edwin est le fondateur et PDG de Northern Arena, une entreprise canadienne spécialisée dans l'organisation, la production et la diffusion de tournois e-sport. Il est propriétaire de Mirage, la première équipe e-sport professionnelle au Québec. Il est également producteur exécutif des Canadian Game Awards, la cérémonie qui met à l'honneur et récompense l'industrie vidéoludique canadienne. Et en parallèle de cela, Carl Edwin est chroniqueur et a sa propre émission techno et divertissement numérique sur Radio-Canada. Et il est le créateur et producteur exécutif de Squad, un média axé gaming et e-sport. Comment tu vas, Carl Edwin ?
Salut, salut, ça va ?
Ouais, super. Déjà, toute petite question avant de commencer. Oui. Comment on réussit à faire autant de choses cool en même temps ?
Je dors pas, je suis un vampire en fait, c'est ce que vous savez pas.
C'est ça le secret ?
Ouais, c'est ça exactement. Non, je dois avouer que j'ai une excellente équipe avec moi. On est plusieurs dans l'entreprise à travailler sur tous ces beaux projets-là. Donc oui. Mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup, on travaille fort. On est des passionnés de jeux. Mais sinon, écoute, ça va, là, c'est excitant. C'est des beaux projets, oui.
Ouais, c'est sûr. Bah, super. Je pense qu'on peut dès maintenant commencer à s'intéresser au top 3 des jeux qui t'ont le plus marqué. Alors, pour commencer, on retrouve Super Mario Bros., le jeu de plateforme mythique développé par Nintendo et sorti en 1985 sur NES. Il fait d'ailleurs suite au jeu d'arcade Mario Bros. Qui était sorti 2 ans plus tôt, et c'est le premier jeu de la série Super Mario. Alors, est-ce que tu te souviens de comment toi tu as eu le jeu et tes premiers souvenirs là-dessus?
Oui, je m'en souviens très très bien. Évidemment, moi, c'était plusieurs années après que ça soit sorti que j'ai eu la chance de jouer, mais c'est un très beau souvenir pour moi. C'est pas nécessairement le jeu, parce que le jeu évidemment était vraiment génial. Il y a des belles choses dans le jeu et tout, mais c'est vraiment un souvenir pour moi. C'est mes premiers pas en fait dans le monde du jeu vidéo. C'est mon père qui avec ma tante ont acheté le jeu pour moi et mon frère qu'on était très très jeune. Okay. Et je me souviens très bien à l'époque qu'on a reçu c'était à Noël, on a reçu la boîte et tout avec le jeu, on était vraiment excités. Et le soir, bon, on a commencé à jouer un peu, mes parents ont connecté la machine, puis mon père nous dit un peu, tu sais, quand même, je me souviens plus quelle heure il était, mais il dit ok, allez vous coucher, c'est le temps d'aller vous coucher et tout. Puis on dit ok, on va aller se coucher, moi et mon frère, on se dit ok, quand tout le monde va dormir, on va sortir et on va commencer à jouer. Et puis, je vais toujours m'en souvenir parce qu'on sort de la chambre et puis t'as mon père qui est en train d'essayer de jouer à des jeux vidéo. Puis finalement, on n'a pas pu aller jouer ce soir-là parce que mon père était en train d'essayer la machine. Donc, des très beaux souvenirs de Super Mario. Mais évidemment, c'est plus que ça. C'est vraiment un jeu mythique dans le monde du jeu vidéo. Là, pour nous, il y a des petites des choses qui me reviennent, par exemple, tu sais, les warp zones, tu sais, je sais pas, le truc des 100 vies, par exemple, pour essayer d'avoir 100 vies dans le jeu. Il y a toutes sortes de petits trucs comme ça qui me plaisent, en fait, qui m'ont plu à l'époque à ce jeu-là. Puis aussi, ben, c'est encore là pour parler de l'attachement à ça, puis qu'est-ce que ça représente pour moi, le jeu, c'est que plus tard, avec ma copine qui est devenue ma femme, elle aussi, elle jouait beaucoup à Super Mario, et c'est comme ça okay. qu'on a eu beaucoup de discussions ensemble. J'ai des jeunes enfants, mes enfants ont commencé à jouer à des jeux vidéo sur Mario, donc c'est vraiment presque familial, tu vois, donc okay. C'est pour ça que c'est très important pour moi, là, ce jeu-là.
Il y a un côté de legacy, tu sais, genre chacun l'a donné à celui d'après.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. Mon père, c'est pas un gamer du tout. Tu sais, à l'époque, lui, c'était comme, ok, bon, mes enfants veulent ça, je vais leur acheter. Tu sais, mais il a créé quelque chose dans nous qui est très important. Moi, j'ai étudié après en informatique. J'ai un diplôme en génie logiciel, en développement logiciel. Mais tout ça a amené vers ça. Tu sais, c'était le ah, j'aimerais ça un jour créer des jeux vidéo. J'aimerais ça être dans ce milieu-là. Comment je fais ça? Puis c'est en jouant à Super Mario. Ma femme, elle, c'est autre chose. Et elle, pour elle, she's a completionist. Elle veut okay. faire tous les étoiles, elle veut tout aller les ramasser, tout ça. Donc, fait que là, moi, j'étais pas comme ça. Donc, très rapidement, ça a créé ce genre de défi entre les deux. Puis on était comme, OK, qui va réussir à finir ce jeu-là le plus possible? Puis on est revenu à Super Mario Bros, mais tous les autres aussi, jeux qui sont venus après pour essayer justement de les finir. Puis on inculque ça même à nos enfants qui, eux, avec quand on joue avec eux, c'est comme, OK, ben, là, mon fils va dire, ah, oh, mais on a fini le tableau, papa. Je dis, non, on n'a pas fini. Il nous reste encore des étoiles à aller chercher. On va retourner. On va finir. Quand on va finir ça comme il faut, là, après, on passe au prochain tableau. Donc, il y a un peu de ça aussi. Donc, oui, effectivement, c'est très familial, quoi. Tu sais, ça fait partie un peu de nous, là. Donc, c'est ça que ça vient chercher, là.
Est-ce que la NES, elle existe toujours ou pas?
La NES, je crois qu'elle existe toujours. Je veux dire, chez moi, la boîte, elle... Écoute, là, la boîte avec les cassettes qu'il fallait souffler dedans pour pouvoir les faire fonctionner. Des fois, je ris parce que, tu vois, les petites cartouches qu'il y a pour la Switch, quand des fois, ça arrive des fois que ça fonctionne pas du premier coup, donc faut l'enlever, la remettre. Puis, je me suis fait prendre une fois, je soufflais, tu sais, Puis là, on se dit, pourquoi tu souffles? Tu sais pas, mais dans le temps. Tu sais, t'as l'air de grand-papa, là. Dans le temps qu'on était jeune, il fallait souffler sur les cassettes. Mais oui, donc, c'est, ça vient chercher quelque chose. Mais oui, la NES, toujours chez mes parents, on l'a toujours, on a encore des cassettes, qui sont là, écoute, c'est dans une boîte quelque part. On n'a pas vendu ça, mais oui, ça fait partie des souvenirs qu'on garde, quoi. Mmh.
Ouais, c'est là, dernièrement, vu que je me suis un peu passionné pour les cartes Pokémon, j'essayais un peu de retrouver mes potes en me disant peut-être que lui il l'a encore. En fait, tout le monde quasiment a dit, bah, quand j'ai déménagé, j'ai tout jeté. Enfin,
en mode, c'est triste.
Ouais, c'est ça. Et moi, genre, chez moi, il y a encore ma Nintendo 64, ma GameCube. Enfin, tu sais, j'ai toutes mes consoles et j'ai bien dit, tu sais, j'ai mis dans des cartons où il y a marqué vraiment dessus ne jamais jeté, tu vois. Pour être sûr que mes parents, genre, même si c'est dans une cave, genre, ça ne bougera jamais, quoi. Et si ça doit mourir dans la cave, ça mourra dans la cave.
Ah. Mais toi, est-ce que c'est sentimental ou c'est parce que si tu dis, un jour, je vais être riche, je vais les vendre, ça va valoir...
Même mes cartes, je peux pas les montrer, là, mais elles sont défoncées, les coins, ils sont tout cassés, et c'est la seule valeur dont j'ai besoin, tu vois. Elle pourrait valoir 50 000 que je la vendrais pas parce que c'est la mienne, tu vois.
Et là, pareil. Une valeur sentimentale.
Ouais, mais vraiment, genre, même si ça valait énormément, c'est sûr que non. Et puis, moi, j'ai deux frères et, tu sais, genre, enfin, ces consoles-là, on les a vécues ensemble, quoi. Il n'y a pas de, tu sais, on peut pas, il n'y en a pas un de nous qui va la garder, tu vois. Il faut qu'elle reste chez nos parents. Parce que, genre.
Ouais.
Terrain neutre, un peu.
Terrain neutre. Même, ouais, tu te dis plus tard, ça pourra servir, genre, quand on amènera les petits-enfants, tu sais, genre. Ils auront des consoles auxquelles jouer, tu vois.
Exact. C'est un peu la même mentalité pour moi où je me dis, on sait jamais. Tu sais, je sais que maintenant il y a des émulateurs, il y a toutes sortes de trucs pour jouer à ces jeux-là, mais je me dis, tu sais, la valeur sentimentale de ça, d'avoir l'appareil, de toucher. Puis dernièrement, je faisais une capsule justement sur les jeux physiques versus les jeux digitales et comment on va vraiment vers un monde digital avec, tu sais, le Game Pass puis toutes ces choses-là. C'est vraiment pratique. Mais il y a un petit côté nostalgique. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'ai été chercher ma première, la Wii. Je pense que c'est la Wii ou la Wii U. Je pense que c'est la Wii. J'étais vraiment, on a fait la file devant le Best Buy pour pouvoir, c'était à Future Shop à l'époque, à Montréal. Donc, faire la file pour pouvoir aller chercher sa console. C'est plus comme ça, tu sais. Puis d'avoir le boîtier avec le livre d'instruction et tout ça, tu sais, c'est tangible, tu sais, c'est qu'il y a quelque chose avec ça. Mais je comprends, évidemment, puis je veux dire, je suis le premier à le faire, à aller télécharger des jeux, c'est tellement plus rapide et pratique, mais ouais.
Pour le coup, j'ai 100% de mes jeux sur Switch qui sont physiques.
Ah, cool.
J'en ai jamais, bah, à part, je crois, NBA 2K, parce qu'il devait valoir genre $2. Donc, du coup, je suis là, bon, bah, on va le prendre sur l'eShop, là, ça vaut rien du tout. Mais je les ai tous gardés, et même, bah, en fait, j'ai un peu la même anecdote, mais la toute première fois, il y avait ma copine qui m'a dit, pourquoi t'achètes toujours les jeux? Et puis, moi, du coup, j'avais pris ma petit truc, et j'étais là, genre, et je l'ai mise, et c'est ça, par nostalgie, en se disant, bon, tu sais, genre, je sais pas, t'as ce côté où, ouais, ça fait un peu collection, et puis, tu sais, t'as tous tes jeux, genre, tout bien organisé, et tu te dis, bah, tu vois.
Ouais.
Et puis, bon, la mémoire, après, de la Switch, est pas énorme non plus, donc c'est sûr que ça accentue le fait que, si tu veux des jeux, vaut mieux les avoir sur...
Non, c'est vrai, c'est chargé, vrai. Parlons de Switch, Switch Pro, est-ce que vous attendez ça? Parce que je pense que on est bientôt, bon, on dit Switch Pro, ça va peut-être avoir un autre nom, mais j'ai bien hâte de voir ce qui va arriver. Peut-être, j'imagine, pendant le 3 cette année ou un peu plus tard, on devrait avoir quelque chose. Ça va être assez excitant. Parce que j'aime beaucoup la Switch, en fait. J'aime beaucoup la console en tant que telle. Le fait d'être capable de la mettre comme ça dans son socle, jouer sur un téléviseur, et puis aussi être capable de dans le temps, on pouvait sortir avant le COVID. donc ça, c'est cool aussi. Mais ouais, j'ai bien hâte. Écoute, en HD et tout, ça, je pense que ça va être...
C'est que c'est pour certains jeux, genre, il y a certains jeux où l'image, elle est pas belle et puis ça ralentit un peu. Et t'es là en mode, bon, elle est gentille, la Switch, mais...
Faut pas la pousser.
Moi, je crois que c'était Hyrule Warrior, là.
Ouais,
quand il y a plein d'ennemis, au bout d'un moment, tu sens que la Switch, elle est en galère totale.
Elle rush.
Et du coup, genre, juste pour ça, ouais, ça vaut le coup. Puis, comme t'as dit, le fait de pouvoir jouer comme ça, enfin, de pouvoir jouer en portable, puis de la mettre sur sa télé, bah, tu sais, si, faut que la télé aussi, ça apporte quelque chose en plus, et ça peut être genre la grosse HD bien, bien belle, on prend.
Ouais. 4K, let's go, pourquoi pas?
On espère.
HDR. Ouais, ouais.
Et d'ailleurs, on parlait de NES, là. Est-ce que tu t'es fait séduire par la NES Mini?
Non, je ne me suis pas fait séduire par la NES Mini. Moi, j'ai joué beaucoup aux consoles portables. Tu sais, la DS, la 3DS. J'ai joué beaucoup à ces consoles-là. Je sais qu'une des épisodes que vous aviez avant, il y a une de vos invités qui jouait beaucoup à Tetris ou sur... sur la Game Boy noir et blanc où il n'y avait pas de lumière à l'époque. Moi, j'ai vécu ça, c'est cette époque. Mais ouais, non, la NES Mini, j'ai pas eu la chance de la tester. Non.
Ok. Moi, j'étais ça n'a pas duré très longtemps. Les jeux sont archi durs. Mais vraiment, genre.
Ah ouais, hein?
Ah ouais, moi, je trouve que. Mais et ça, c'est un. Ça, je pense que plus on avance et plus nos jeux sont faciles ou plus, en fait, on nous tient la main, on va dire.
Ouais,
et clair. C'est quelque chose que moi ça me manque parce que tu vois il y a un vrai challenge dans Mario 64 qui est un peu moins dans Mario Galaxy, tu vois. Je dis pas qu'il y en a pas, mais il y en a moins, et tu vois, genre la NES, moi j'ai essayé de jouer à Star Fox, des jeux comme ça, super dur, mais vraiment super dur.
Bah, à l'époque, les jeux étaient beaucoup plus difficiles. Les jeux, maintenant, comme tu dis, ils tiennent par la main, c'est facile, ça devient de plus en plus facile. T'as quoi, 3, 4, 5 modes par, tu sais, dans les jeux maintenant, t'as le ultra facile ou comment ils appellent ça maintenant, cinématographique, je pense, ou quelque chose comme ça, où dans le fond, tu suis l'histoire quand même, tu sais, c'est juste ça.
Ah oui, oui, ouais, c'est
clair. Puis après ça, tu vois, un petit peu plus compliqué, mais ouais, non, effectivement, les jeux à l'époque étaient beaucoup plus difficiles, c'était des défis intéressants.
Ah, même tu te battais presque contre le jeu parfois. Parfois il restait des bugs, parfois tu pouvais pas patcher. Il y avait parfois des défis avec le manque de mémoire qui faisait que il y avait des choses qui étaient pas possibles à faire.
C'est ça.
Et du coup, ouais, je pense qu'il y a parfois les jeux, c'était difficile parce que il y avait pas moyen de faire mieux. Mais dans l'ensemble, les jeux étaient. Enfin là, sur la NES Mini, j'ai tous essayé et vraiment même Mario Bros, tu vois, genre même Mario, je le trouve vraiment dur par rapport à ça d'avant. Parce que, tu sais, rien que le pixel de la tête de Mario, t'as l'impression qu'il touche pas, mais ça touche. Genre, tu sais, sur un HD, c'est quand ça touche
la
pas.
La hitbox.
Ça touche pas,
ouais, ouais, c'est ça.
La hitbox, hein.
Ouais. Non, c'est vrai. Mais ça a son charme aussi, quand même. Tu vois, tout l'époque du 8-bit, 16-bit, tu sais, ça a son charme. C'est pas pour rien aussi que c'est revenu à la mode aussi.
Oui.
Je pense qu'il y a quelque chose, point de vue artistique aussi, qui est très beau, de ce genre de jeu-là. Évidemment, comme tu disais, c'était une limitation physique, en fait, de la mémoire à l'époque. Maintenant, les gens le font juste pour le côté plus artistique. Quoi. Ouais, c'est ça.
Et toujours là dans l'univers de Super Mario, est-ce que tu as pu jouer par exemple au Super Mario Maker, des choses comme ça, ou toi-même tes niveaux et tout?
Oui, on a joué à Super Mario Maker, on a la collection, je ne me rappelle plus c'est quelle collection qu'on a sur la Switch. Tu sais, j'ai la chance d'avoir des relations justement avec certaines entreprises de jeux vidéo où ils nous envoient des trucs à l'avance et tout, puis on a la chance de tester ces trucs-là. Puis ouais, Mario Maker, c'est génial. Des fois, c'est un peu déjoncté, tu sais, le genre de tableau que les gens créent, t'es comme,
ouais.
c'est fou. Mais moi, j'aime ce jeu-là juste pour, encore, tu sais, je vais parler comme assez souvent de mes enfants, ils sont très très jeunes, 7 ans et 6 ans, Mais ils sont en train d'apprendre tout le milieu du jeu vidéo, puis c'est des petites choses comme ça qui leur permet de voir un peu c'est quoi le fonctionnement, comment, tu sais, c'est du level design en fait là, c'est carrément ça là. Donc c'est vraiment cool de voir un peu qu'est-ce que tu peux faire avec ce jeu là, puis aussi découvrir qu'est-ce que les autres développent et créent, la communauté crée. Donc c'est cool ce jeu là.
C'est marrant parce que je pense que c'est vraiment une mécanique qui a permis à la communauté de s'exprimer sur Mario, ce qui n'était pas du tout le cas avant, parce que avant ça reste en général une histoire plutôt solo. Ça a existé, hein, je me rappelle il y avait un Super Mario sur Wii qui était trop drôle où tu pouvais jouer à 4. Mais ce jeu là il est très communautaire, il a créé, enfin tu sais, sur YouTube il y a vraiment plein de vidéos, il y a plein de personnes qui partagent leur code, etc. Et hyper intéressant. Moi j'adore les niveaux où ça se joue tout seul. Tu as juste à avancer, puis c'est des gens qui ont fait des créations incroyables de genre de sauts, de machin, mais t'as pas besoin de toucher ta manette. C'est un défi pour eux parce que tout doit être millimétré et donc tout le monde est obligé de réussir, mais tu sais, c'est des beaux niveaux. Il va y avoir genre, tu sais, des méga Yoshi qui arrivent mais qui te ratent de ça. Ça permet de passer au truc d'après et tout. C'est super bien fait.
Mais est-ce que vous avez déjà vu des speedruns sur des tableaux de Mario Maker?
Certains, oui.
C'est quelque chose.
Un avec les boules de feu où à chaque fois il passe à 1 cm même pas. Enfin, tu penses qu'il va mourir et à chaque fois il continue d'avancer. Penses qu'il a bien travaillé et entraîné le truc, quoi.
Ah ouais. Non, t'imagines le temps que ces gens-là mettent là-dessus pour pouvoir s'assurer qu'ils sont capables de faire. Ah, c'est quelque chose. Ouais.
Moi, j'ai toujours cru que les speedrunners, ils avaient des outils qu'on n'a pas. J'ai toujours cru qu'ils avaient un truc en plus, mais en fait non, ils sont juste archi, enfin vraiment c'est incroyable, genre leur timing, leur truc, la répétition. Muscle memory peut-être,
faut que tu l'aies fait plusieurs fois. C'est assez impressionnant de voir ça. Il y a je connais quelqu'un justement à Montréal qui fait beaucoup des speedruns. Puis il me compare, parce que moi je suis plus dans le monde du e-sports, puis il me disait, tu sais quoi Carl, le speedrun c'est comme un peu un e-sports. Il y a de la performance, faut que t'apprennes, il y a du muscle memory, il y a vraiment les mêmes caractéristiques que tu peux retrouver d'un joueur qui fait du sport électronique. Okay. Je trouvais ça intéressant. Je dis, ah, ok, ouais, je peux voir ça.
Faire une compétition.
Il y en a en fait des compétitions de speedrun. Il y en a. Ouais. Eux, c'est une compagnie qui s'appelle No Reset. Et puis, ils font des streams de 40 heures, 50 heures, des trucs de fou, là. Puis, c'est plusieurs speedrunners qui passent, puis ils font des compétitions comme ça. Donc, puis il y en a de toutes sortes. Il y a des speedruns de Mario, comme t'as des speedruns de Resident Evil, t'as des speedruns de toutes sortes de trucs, là. C'est fou.
Tu les mets tous, là. Tu les mets les 10 alignés. Tu les fais tous lancer Mario Odyssey, et le premier qui finit, il a gagné, tu vois.
Ah ouais, c'est ça.
Ça pourrait être drôle, en fait. Ouais. À mon avis, s'il y en a un qui meurt, il doit être là en mode, bon, bah, j'ai perdu. il doit lâcher le truc. Enfin, bon, bah, c'est perdu.
Ouais, ben moi ce que j'ai vu les compétitions de speedrun, c'est que même si tu vois, parce que ils peuvent voir l'autre personne où l'autre personne est rendue.
OK.
Fait que là ça joue aussi dans ton moral, c'est comme tu commences à te décourager, tu te dis ah non, lui il est loin. Mais tu peux trouver, tu sais, des fois il y a des endroits où il y a des trucs, il y a des raccourcis, il y a les warp zones dans le temps de Mario, tu sais, il y a toutes sortes de trucs que tu peux faire pour éventuellement rattraper cette personne là. Ouais. Donc faut pas abandonner, faut que tu continues, donc c'est intéressant. Ouais.
Ah, c'est fou. À creuser, je pense, ouais. Est-ce que t'as peut-être d'autres anecdotes, là, sur ce premier Mario?
Je pense que c'est pas mal ça. Comme je te dis, le premier Mario, la plus grosse anecdote pour moi, c'est vraiment mon souvenir d'enfance avec mon père qui nous a empêchés de jouer le jour où on a eu notre cadeau de Super Mario, parce que lui, il voulait jouer. Puis vraiment, les souvenirs après qui vient avec la famille, et dans le fond, on se... C'est comme un peu comfort food, comme on dit. Ouais. Ça vient nous rattacher tous ensemble. Donc, ça serait pas mal ça, mes anecdotes par rapport à Super Mario.
Bah, je pense qu'on peut continuer et enchaîner avec ton deuxième jeu.
Oui.
Pour le deuxième jeu, on retrouve Resident Evil 7 Biohazard, donc le 7e épisode de la série Resident Evil, qui est développé par Capcom et sorti en 2017 sur PS4, Xbox One et PC. D'ailleurs, ça c'était le premier jeu de toute la série à être en vue à la première personne, et un peu plus axé survival horror que les derniers qui étaient tournés action. Comment tu t'es arrivé à ce jeu-là, toi?
Resident Evil, pour moi, c'est un de mes meilleurs jeux à vie. J'ai plusieurs jeux que j'aime beaucoup.
Okay.
Mais je t'explique pourquoi j'aime beaucoup Resident Evil 7. Parce que c'est un peu le une culmination de toutes sortes de choses en même temps. Moi, j'ai commencé à jouer à Resident Evil, Resident Evil 2.
D'accord.
Et puis, tu sais, Chris Redfield, Leon, tu sais. Puis, j'ai beaucoup aimé le jeu parce que, bon, tu sais, c'est un jeu d'horreur. C'était différent des autres jeux que j'avais joués. C'était très clunky. C'était pas le jeu le parfait, là, mais j'aimais la prémisse et tout. Puis après, tout de suite après, j'ai commencé à jouer à Code Veronica. Et Code Veronica, il n'y a pas beaucoup de gens peut-être qui le connaissent, mais c'est entre Resident Evil 2 et Resident Evil 3,
ouais.
Qui était sur la Dreamcast. Puis, tu sais, la Dreamcast, à l'époque, c'était la console. Tu sais, il y avait eu... Qu'est-ce qu'il y avait là-dessus? Il y avait Crazy Taxi là-dessus. Il y avait Jet Set Radio, Shenmue. En tout cas, il y avait plusieurs jeux qui m'ont vraiment marqué. Mais Resident Evil, Code Veronica, c'était comme un peu la suite de tout ça. Donc, ça m'a vraiment mis dans le bain avec toute cet écosystème-là ou ce monde de Resident Evil.
Okay.
Puis, Resident Evil 7, pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que Resident Evil, en passant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup aimé Resident Evil 4.
Ouais.
Moi, je l'ai pas aimé du tout.
Waouh! J'ai un moi y compris.
Ouais.
Moi, pas du tout, ok.
Pas du tout. Et je t'explique pourquoi. C'est un très bon jeu, mais à l'époque, c'est un jeu qui était très plus action.
Ouais.
Puis, moi j'étais à ce moment-là, moi ce qui m'amenait vers la série Resident Evil, c'était un l'horreur, les puzzles, tu sais, puis le côté un peu plus dark, un peu plus, c'était plus le pacing était plus lent.
Oui.
Tandis que là, t'arrivais avec un jeu qui était très rapide, très action. Je veux pas dire Call of Duty parce que c'est pas ça du tout, mais tu sais, je veux dire beaucoup plus action.
Non, c'est vrai qu'il y avait un aspect FPS quand même, ouais.
Exactement. Puis aussi, c'est à l'extérieur. C'était le jour des fois, j'étais comme non, moi je veux que ça soit la noirceur, faut que ça soit claustrophobe, il faut que ça soit, tu sais. Donc c'était une des choses qui pourquoi peut-être que j'ai moins aimé Resident Evil 4. Donc à Resident Evil 7. Ça m'a ramené vers ça, vers vraiment le côté claustrophobe, le côté dark, tu sais, massacre à la tronçonneuse, tu sais, t'arrives avec la famille qui sont, c'est des malades mentales, là, tu sais, c'est comme, j'avais la, tu sais, comme on disait en québécois, j'avais la chienne, tu sais, j'avais peur, là, tu sais, mais ce qui a rajouté, en fait, une couche de plus qui fait que j'ai beaucoup aimé ce jeu-là, c'est le côté VR.
Okay.
Parce que je suis un fan de VR, j'aime beaucoup la réalité, la réalité augmentée dans ma tête, mais virtual reality, réalité virtuelle. Puis j'ai presque tous les casques, là, Oculus Rift, HTC Vive et tout, là, je ramasse ça à la maison, là, comme Donc, quand ce jeu-là est sorti, le VR, à l'époque, il n'y avait pas encore ce que moi j'appelle le killer app. Le jeu VR qui était comme, wow, ça c'est cool.
Ouais.
Exactement. Puis ce jeu-là, puis, tu sais, il y a eu, j'ai oublié Half-Life Alyx. Donc il y a eu Half-Life Alyx après qui est sorti qui est excellent, mais avant Half-Life Alyx, quand Resident Evil 7 est sorti version VR, là j'étais comme wow, t'imagines, t'as tout ce monde là ce monde claustrophobe, tu sais, horreur et tout, puis t'as les deux pieds dedans, là t'es vraiment en plein dedans. Moi je jouais le soir,
wow,
les lumières fermées, j'avais peur, je transpirais, c'était fou, là,
vrai setup.
Je me suis mis dedans, donc c'est pour ça que pour moi ça l'expérience a été pas juste le fait que ça soit un bon jeu, mais c'est en plus tout le côté VR qui se rajoutait par-dessus, donc c'est là je pense que ça m'a vraiment impressionné. Maintenant, je dis ça, je parlais de Resident Evil 4 tout à l'heure, mais Resident Evil 8 en ce moment, Village, est un peu plus, ça tire un peu plus vers le Resident Evil 4, tu sais, avec des environnements un peu plus à l'extérieur et tout ça. J'aime beaucoup, mais tu vois, la meilleure partie pour moi, puis je veux pas faire de spoilers, là, mais la meilleure partie pour moi de Village, je sais pas si vous avez joué. Donc je ferai attention, mais c'est le Dollhouse, c'est cette partie-là revient un peu dans ce même type de claustrophobe, le à l'intérieur, des jump scares, tu sais, tu tournes le coin puis ah, tu sais, des trucs, c'est un peu ça là, donc j'ai beaucoup aimé, ouais.
Aujourd'hui, il y a Chris, du coup, qui on a un peu parlé de Resident Evil. Puis moi, les jeux d'horreur, c'est vraiment genre, c'est pas mon truc. Quoi. Genre, c'est les films d'horreur. Déjà, j'en ai vu un dans ma vie. J'ai pas dormi pendant une semaine. C'était The Ring, donc c'est même pas en plus un qui fait si peur que ça, tu vois.
Ouais,
et,
ouais.
Et du coup, les jeux vidéo d'horreur, moi, je peux pas. Ce que je disais, j'ai joué à Phasmophobia, c'est peut-être le plus que j'ai fait. Puis ça avait pas si peur que ça. Mais là, quand j'ai vu les jeux que t'avais mis et j'ai vu que c'était VR, j'étais là genre. Genre, tout sauf ça.
Oh, ouais, c'est fou, là. Ouais, t'as eu l'expérience vraiment intense. Mais tu sais, il y a d'autres jeux. Pourquoi t'aimes pas les jeux d'horreur, en fait?
Moi, les jumpscares, ça me fait trop peur, j'aime pas. C'est juste, tu vois.
C'est drôle parce que ma femme me dit toujours la même chose. Elle dit, t'as une job stressante, tu roules une entreprise et tout, t'es déjà stressé. Puis là, le soir, tu t'en vas jouer à un autre jeu stressant. Oui, mais ça me fait relaxer.
Alors, après ça, tu dors. Moi, je dors pas bien, tu vois. Mais c'est vrai que
ouais.
Ça te fait dépenser de l'énergie au moins. Tu vois, genre, dans ta tête, à mon avis, tu sors de ça, t'es KO, t'es lessivé, tu vois, juste au lit.
Ouais, ouais. Ça, puis c'est la meilleure façon de perdre du poids. Hein. Tu transpires. mais il y a d'autres jeux quand même d'horreur qui sont très bons. Tu sais, je suis fan de Resident Evil, pas juste à cause de l'horreur, mais aussi, comme je disais un peu plus tôt, à cause des puzzles et tout ça, qui sont quand même très, très intéressants. Ça fait un peu travailler les méninges. Mais il y a d'autres jeux, tu sais, il y a Outlast, qui est très, c'est horror-driven. Il y a Silent Hill. À l'époque, Silent Hill, c'était, il y avait un peu comme la compétition entre, ouais. C'est quoi qui est meilleur? C'est Resident Evil, c'est Silent Hill, tu sais. J'ai gardé ma PS3. J'avais deux PS3, mais il y en a une que j'ai gardée parce que j'ai encore le démo de Silent Hill. Bon, tu sais, j'ai un blanc de mémoire. C'est le démo que Kojima a fait pour le jeu Silent Hill, qui finalement a pas vu le jour, la nouvelle version. Mais ça aussi, c'était quand même un jeu assez peurant, là aussi. Là, il y avait les jumpscares et tout. Mais je pense que ce que Resident Evil faisait et fait encore, qui est différent, c'est vraiment toute la partie puzzle, je pense, qui devenait plus intéressant. Puis évidemment, le développement des personnages, il y a beaucoup de personnages dans ce jeu-là qui sont intéressants, certains moins que d'autres, mais j'aime beaucoup Claire Redfield et son frère Chris, parce que justement avec Code Veronica, ils étaient très très présents, donc moi je trouvais que c'est une bonne histoire de ce côté-là, et puis un beau développement de personnage. Mais ouais, non, c'est très cool comme jeu, très cool. je t'invite.
Mais moi, un jour, je vais m'acheter un casque VR là, quand vraiment le truc sera encore plus abouti. Et à ce moment-là, je me ferai les pires jeux. Alors après, moi, la VR, j'avoue que j'attends plus ça pour... Je sais pas pourquoi, je pense à un délire avec moi-même. Mais si j'avais plein de potes, tu sais, jouer à un jeu avec... T'es dans un vaisseau et chacun doit gérer un peu son truc, tu vois. Ce genre de truc. Je trouve que la VR, c'est encore mieux si tu peux genre t'évader et faire des trucs que tu feras jamais de ta vie, en fait. Enfin, conduire un vaisseau spatial, je doute que je le fasse un jour. On sait jamais, mais je doute quand même fortement. Et du coup, je pense que ça, c'est le genre de truc en VR. Mais je le testerai, le jeu qui fait peur, parce que... Même moi, je me dis, genre, comme tu le décris, j'ai envie d'avoir peur, tu vois, genre...
C'est une bonne expérience.
En VR, tu vois, je veux un vrai truc, parce que de ton ordi, c'est facile de juste tourner la tête, tu vois.
Ouais, VR, ça doit être trop, je sais pas comment t'as fait, hein, franchement.
Et je te dis, c'est qu'il y a certains moments où j'enlevais le casque, parce que c'était comme, ok, c'est trop, comme j'ai vraiment peur. C'était intense. Alors, tu dis, ok, faut que je sorte de ce monde-là, parce que... Mm-hmm. Tu dis, je suis pris là, je suis là, comment je vais faire pour m'en sortir? Ces gens-là me courent après, ils veulent ma peau et tout. Puis là, tu t'es vraiment immiscé dans le monde. Donc quand je te disais que je transpirais, c'est pas des blagues, là, j'avais vraiment des sueurs, là, tu sais, c'était comme, comment je vais m'en sortir? Donc la seule façon de s'en sortir, c'est d'enlever le casque. c'était juste ça. Puis pour m'immiscer encore plus, c'est que je jouais le soir, je fermais toutes les lumières. Fait que dès que j'enlevais le casque, je pouvais pas tricher. J'enlevais le casque, mais il faisait encore noir. Donc, c'était comme « Ah !» Donc, ça a aidé aussi. Yohan, toi, tu parlais tout à l'heure de trucs de vaisseau. T'essaieras Squadron, Star Wars Squadron.
Squadron, c'est en VR, ouais.
C'est en VR. Puis ça aussi, c'est aussi multijoueur. Donc, tu peux jouer avec des amis et tout. Là. Donc, ça peut être intéressant aussi.
Ouais. Ça, je l'ai mis, moi, dans ma liste sur Steam, mais... Je préfère y jouer en VR, ouais, que genre sur ordinateur.
Ouais, ouais.
Mais gros jeu, hein. Franchement, j'ai voulu le faire juste avant le podcast pour moi aussi avoir l'expérience. J'ai joué juste sur PlayStation, donc de manière classique. Je sais pas comment t'as fait avec le casque VR. Parce qu'il y a tellement de moments où, enfin, ils l'ont vraiment pensé pour ce type de display, quoi. Et donc, il y a tellement de moments où t'es en face à face et tu peux rien faire d'autre que subir l'action, quoi. Donc, ça doit être quelque chose encore.
Ouais, et puis je pense aussi, tu sais, puis toi, moi je l'ai joué avec PSVR parce que c'est puis la PSVR c'est celle qui a le moins point de vue technologie, c'est la moins avancée. Donc la résolution des de l'écran en fait, des yeux et tout là, c'est un petit peu moins des lentilles en fait, c'est un peu moins que le HTC Vive par exemple ou l'Oculus, mais tu sais, t'as quand même une bonne, t'as vraiment une, puis le field of view aussi qui est beaucoup plus restreint. Donc, tu bouges un peu à la robot, là, si tu veux, pour avoir le full experience. Mais je pense qu'avec, tu sais, les nouvelles versions de lunettes de réalité virtuelle qui sortent, je pense qu'on va avoir des expériences de plus en plus immersives. Et je pense que ça peut valoir le coup. Tu sais, je pense que ça donne des une différente expérience. Puis je t'invite à jouer si tu as joué au jeu en mode normal, si tu veux, ouais, normal, quote unquote. Joue-le en VR. Tu vas voir, ça va donner une nouvelle expérience, puis peut-être une expérience beaucoup plus intense. Ça, je peux te le dire.
Il va se faire dessus. C'est tout ce qu'on va gagner.
Et pour le coup, est-ce que tu es aussi fan de films d'horreur, cinéma d'horreur?
Tu sais, c'est drôle parce que, puis, tu sais quoi, ça me ramène au début de cette histoire-là, parce que non, je suis pas un fan de films d'horreur. Je suis pas, pour les mêmes raisons que vous mentionnez, ah, oh, ça fait peur et, tu sais, je suis pas vraiment, et puis, tu sais, j'ai vu, je pense peut-être 15 minutes de Jason, tu sais, What You Did Last Summer. Tu sais, j'ai vu quelques petits films d'horreur ici et là, mais j'ai jamais vraiment été un fan. Mais les jeux d'horreur ou plutôt la série Resident Evil, je pense que c'est vraiment le premier appeal, si tu veux, la première chose qui m'a vraiment attiré vers ça. C'était pas nécessairement l'horreur, c'était vraiment le type de gameplay avec les puzzles et tout ça. Ouais. Puis évidemment après le suspense, parce qu'il y a, tu sais, c'est beaucoup un jeu de suspense. C'est ça qui m'a amené vers cette série-là. Puis après ça, ben ça, je me suis dit, ok, cool, j'aime ça, je veux en savoir un peu plus sur les personnages. Je suis un gars aussi qui aime beaucoup les histoires. Je suis un single player game campaign guy. Tu sais, le seul multijoueur que j'ai joué, ou en fait le premier multijoueur que j'ai joué, c'est Gears of War, 4 contre 4 à l'époque. Je pense que c'est encore 4 contre 4. Puis c'est le seul multijoueur que j'ai joué vraiment. Dernièrement, j'ai essayé de rentrer sur Warzone, oublie ça, là, tu rentres, tu te fais tuer tout de suite, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est un peu plus, je suis peut-être un peu plus, écoute, je suis un ancien, un petit peu plus old school, mais j'aime une bonne histoire, j'aime des bons scénarios, J'aime des développements de personnages qui sont poussés, je veux m'attacher à un personnage ou un groupe de personnages. C'est ça qui vient me chercher, moi. Donc, évidemment, t'as le gameplay aussi, t'as tout ça qui c'est du gravy par-dessus, tu sais. Mais être capable d'avoir une expérience presque quasi cinématographique, mais interactive, un peu plus que, parce que vous avez sûrement entendu parler de Bandersnatch, la série Netflix, qui est un peu interactive.
Black Mirror,
c'est ça, exact. Ça, c'était un peu tiède. Je pense qu'on peut faire mieux, mais c'est un bon début vers peut-être quelque chose qui peut être un peu plus interactif. Mais si tu, comme je dis, si t'es capable de m'attacher une bonne histoire, des bons développements de personnages et tout, puis en plus avoir un défi de gameplay, tu m'accroches là, tu sais.
C'est vrai, c'est un vrai défi pour les jeux aujourd'hui d'essayer de créer des histoires où tes actions vont influencer l'histoire, mais vraiment pas juste il y a un dialogue et puis c'est je vais le faire, non je le ferai pas, tu vois.
Genre, ouais.
Alors que là, tu sais, genre peut-être l'action d'avant. Moi, j'avais joué à comment il s'appelle déjà, à Dark Souls ou l'autre jeu qui est un peu pareil, c'est
Demon's Souls.
C'est... Skyrim.
Ok.
J'ai joué à Skyrim et en fait, au tout début, tu vas avoir le forgeron, tu sais, qui t'apprend à faire les trucs. Et en fait, moi, tu sais, en tant que joueur basique, tu rentres quelque part quand il y a un prompt, t'appuies, tu le fais, tu vois. Et en fait, je suis rentré chez le forgeron et le prompt, c'était genre, il y avait des couverts, puis c'était genre prendre. Puis du coup, moi, je prends les couverts. Puis après, il y a une lampe et il y a marqué prendre. Puis moi, du coup, je prends la lampe, tu vois. Et je commence à prendre tout chez lui. Vraiment, je l'ai dépouillé. Le forgeron, il avait plus rien. Et à ce moment-là, en fait, et là, je passe en bas, dans la cave, et je continue à faire la même chose. Je continue à le dépouiller, sauf que dans la cave, il y a sa femme, tu vois. Et d'un coup, je prends mes trucs et là, sa femme, elle commence à me mettre des coups. Je fais, mais il se passe quoi, tu vois? Je me suis dit, c'est un ennemi, enfin. Et du coup, j'étais vraiment perdu parce que le jeu vient de commencer à ce moment-là. Vraiment, le forgeron, c'était première mission. Et donc, moi, je décide de sortir de la maison en me disant, bon, je sais pas pourquoi elle me tape dessus, peut-être qu'elle va s'arrêter. Mais elle me poursuit. Et elle me poursuit vraiment super, super, super longtemps que je finis par la tuer. J'ai un moment, la femme, j'en pouvais plus, tu vois, elle faisait que me poursuivre, je finis par la tuer. C'était compliqué en plus parce que j'avais pas trop d'armes. Et je retourne chez le forgeron et je lui dis, vas-y, donne-moi une mission. Et le forgeron, il a sorti sa meilleure hache, il a tout fait pour me tuer. Et donc, en fait, j'étais incapable de continuer à jouer. Et je savais pas quoi faire, parce que bah, la femme, elle va pas ressusciter, hein, donc ouais. Ça arrivera pas. J'ai essayé de revenir à une sauvegarde d'avant, en me disant que c'était un bug, mais la femme était toujours là. Et du coup, elle continuait à vouloir me tuer. Puis parfois, tu pouvais l'emmener tellement loin qu'elle finissait par revenir chez elle. Mais pareil, en fait, tu retournais. Et en fait, je suis allé lire un peu des solutions après, mais finalement, je n'ai jamais joué à Skyrim. Parce que j'ai jamais eu la mission des forgerons, l'émission du forgeron, et donc je savais pas quoi faire.
T'as décroché.
Je savais juste pas quoi faire, et en fait, je déteste utiliser les solutions, surtout aussi vite dans un jeu, honnêtement. Et en fait, j'ai vu qu'après, genre, apparemment, quand tu fais des conneries, tu peux aller au commissariat et genre payer tes dettes, faire des trucs comme ça pour que les gens t'excusent. Mais je suis même pas sûr, en plus, de cette information-là. Honnêtement, je suis jamais allé vérifier, je l'ai jamais fait. Mais, tu vois, mais il y a un vrai, mes actions ont influencé mon jeu, tu vois.
Mon expérience.
J'ai niqué ma partie, tu vois, pour avoir volé des fourchettes. Donc, c'est quand même triste, mais en même temps, je trouve ça cool que... en fait, je pensais pas que c'était un jeu ultra réaliste à ce point. Tu sais, je me disais pas, je vais ramasser des fourchettes, l'IA va comprendre que j'ai volé ces fourchettes, tu vois. Ouais, c'est hyper poussé quand même. Donc, et tu vois, c'est un vrai challenge. Skyrim, je trouve qu'ils l'ont bien fait, mais plus ou moins parce que tu sais, tu devrais peut-être avoir des cues audio de la personne qui dit t'es sûr de vouloir lui voler, après la femme elle va pas être contente, tu vois, genre peut-être me faire comprendre que mes actions ont vraiment un impact, parce que je le savais pas, mais je trouve ça hyper cool genre comme type de jeu, et j'espère que dans le futur on aura vraiment des trucs comme ça. Et puis en VR ça serait incroyable parce qu'à ce moment-là tu vis en fait une aventure, enfin c'est une vraie aventure, tu vis ton aventure à toi que t'as construit avec genre toutes les possibilités possibles.
Ouais. Vous avez joué à Cyberpunk?
J'ai commencé.
Parce que c'est un jeu aussi comme ça, avec tes décisions, ce que tu fais en une instance sur ton gameplay ou qu'est-ce qui va. Moi, malheureusement, j'ai commencé à jouer à Cyberpunk, j'ai décroché, il y avait vraiment beaucoup de bugs, donc j'ai dit, ok, tu sais quoi, je vais attendre que ça soit patché, je vais vraiment avoir une expérience complète. Donc j'imagine quelque part cette année, je jouerai, mais ce genre d'expérience-là aussi, justement, comme tu dis, Yann, c'est si tu tes actions ont un impact sur ton expérience. Et en plus, tu joues ça en VR où ce que t'es vraiment immiscé dedans. Et voilà, ça peut être solide.
Moi, je dois avoir une heure et quelques de gameplay là, sur Cyberpunk. Mais pour le coup, j'avais lu que tes décisions avaient un impact. Donc maintenant, je n'ose rien faire. Je me dis, sinon, il va se passer je sais pas quoi. Il va y avoir genre la grand-mère d'un personnage qui va vouloir me taper. Enfin,
t'sais, le citoyen modèle.
Ouais, vraiment, genre là, même les feux rouges, je les grille pas, tu vois. Alors, on en arrive à là, tu vois. Donc, non, mais ouais, pareil, dès que j'aurai le temps, faut vraiment que je joue parce que l'histoire pour l'instant est cool et puis c'est bien fait. Donc.
Ouais, je pense que c'est un excellent jeu. C'est juste vraiment une question de leur laisser finir le jeu, c'est ça. Une année, sérieusement, ils auraient pu patienter un an et ça aurait été. Je pense que c'est la même chose avec Skyrim aussi au début quand c'est sorti. Je pense qu'ils avaient eu beaucoup de bugs. Puis. Ouais.
Je pense que ce qui était compliqué avec eux, c'est que à la limite la version PC elle est jouable. Moi je l'ai sur PC et puis genre je joue très bien. Je suis quand même tombé sur un bug, mais c'était un bug un peu bizarre où pendant le tutoriel, tu dois tuer quelqu'un et moi l'IA je le voyais s'éloigner, puis c'est en allé de mon écran. Je pouvais plus le tuer, mais je pouvais pas reset la zone et donc du coup j'étais obligé de le bug vraiment bizarre, tu vois. Mais sur PC il est vraiment jouable. Mais ce qui est triste, c'est qu'ils ont vraiment fait des versions, la PS4 et Xbox, qui...
C'est ça qui est. Ouais.
Enfin, c'est pire que pas jouable, en fait. C'est une joke. Enfin, je me serais senti mal de sortir un truc comme ça, tu sais. Ils auraient mieux fait de dire, on les cut, tous ceux qui ont précommandé vont récupérer votre argent, puis on a honte de ce qu'on a fait, tu vois, genre. Parce que la qualité, elle est mauvaise, il y avait plein de bugs, mais en plus, ça rame, c'est injouable. Enfin, il y a rien d'optimisé pour ces versions-là, et je me suis dit, putain, c'est...
Ben, je pense qu'ils ont eu leur leçon aussi, hein. Je pense que PlayStation l'a enlevé du store, faisait des remboursements et tout. Donc ça, c'est, mais en même temps, moi, personnellement, je pense à l'équipe de dev en arrière.
Ouais, pareil.
Qui se défonce pour faire un jeu, puis que les exécutifs décident, ah oui, on va sortir pour faire du cash, allez, allez. Puis là, t'es comme, on n'est pas prêt. Donc,
C'est sûr que le QC, là, qui voit la qualité sur Xbox tous les matins en se levant, il a dû dire un truc, il a dû dire à un moment, moi, je le sortirai
pas. Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est vrai que ça vient de d'en haut. En plus, c'est, enfin, là, il n'y a pas encore eu trop d'enquêtes là-dedans, mais j'ai l'impression que c'est un sacré foutoir. Il y a beaucoup de questions d'argent. Il y a des gens qui sont partis après du studio, après avoir vendu. Enfin, ça a l'air un peu politique et c'est le genre de truc qu'on essaie de toujours éviter dans les jeux vidéo. On a un peu tous la même mentalité de passionné. Et quand il y a les politiques qui rentrent dans ton boulot, t'es toujours là en mode, est-ce que on peut effacer ce côté-là et genre, partez.
Ouais, c'est ça, donc, exact. Ben, c'est pour ça que moi, ça m'a beaucoup touché parce que je suis en contact beaucoup avec des développeurs de différentes compagnies et tout. Puis, tu sais, les gens qui travaillent dans les jeux vidéo, c'est des gens passionnés. Ils veulent, tu sais, si t'es en train de créer un jeu, c'est parce que tu y crois ou tu veux, ou, en tout cas, si tu travailles là, au moins, c'est parce que tu crois que le jeu va être bon, puis tu veux créer quelque chose qui est de qualité. Tu veux être fier, exactement. Donc, c'est toujours difficile, tu sais. Moi, tu sais, le côté journalistique en moi où tu dois vraiment juger un jeu, mais en même temps, tu te dis, ah ouais, mais il y a des gens derrière, est-ce que, tu sais, puis il y en a qui, écoute, ça leur dérange pas, ils vont détruire le truc, dire, c'est de la merde, bien là! Puis tu te dis, mais il y a des humains derrière, tu sais, il y a des gens qui ont bossé dur, puis il y a des décisions qui ont été prises pendant le processus qui a amené à ce produit-là. Ouais. Donc des fois c'est pas toujours facile, mais en tout cas c'est une autre discussion, mais
ça devient pire quand c'est des productions canadiennes, j'imagine, en plus, enfin, parce que je vois en France comment, genre, tu sais, les médias français avec les jeux français, ils sont toujours genre, ouais, il est très très bien, et puis tu sais, tu joues, t'es là, bon, il est pas incroyable. Et du coup, je pense que c'est, il y a aussi ça, tu vois, t'as un impact économique pour limite ton pays parfois, sur des, il y a certaines prods où ils sont 1000-1500, tu sais, bah là, Cyberpunk, enfin, le nombre de personnes qui étaient dessus, ouais, si demain tu leur dis que leur jeu il est pas très bon et que du coup tu veux réduire le budget du prochain, bah en fait t'es en train de cut le job de un tiers des personnes, quoi.
Exact. Donc, exact. Ouais. Non, j'ai quand même confiance que le produit va être de qualité d'ici quelques mois. Tu sais, faut pas se leurrer. Écoute, le COVID, je pense, a affecté beaucoup de gens, puis a affecté cette équipe-là en plus des décisions qui ont été prises. Donc je pense qu'éventuellement ça devrait correct. Mais moi j'ai hâte d'y retourner dans le monde de Cyberpunk et puis faire de bonnes décisions et pas tuer les... Pour pas que ça me revienne.
Ouais. Cool, bah, je pense qu'on peut enchaîner et conclure du coup avec ton troisième et dernier jeu,
oui,
qui était The Last of Us, le fameux jeu d'action-aventure un peu type survival horror aussi, développé par Naughty Dog et sorti en 2013.
Oui.
Je crois savoir que tu as beaucoup aimé ce jeu-là, donc par où tu veux commencer ?
J'ai beaucoup aimé ce jeu-là, puis si vous suivez la conversation qu'on a eue depuis le début, il y a des choses qui reviennent. C'est l'histoire, le côté cinématographique, t'sais, le monde post-apocalyptique. C'est un jeu d'horreur. Faut pas se leurrer. The Last of Us, c'est un jeu d'horreur.
Ouais, ouais.
Donc c'est tous ces éléments-là que j'aime dans le monde du jeu vidéo qui se retrouvent dans un package qui est très 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 polished, là, très poli, puis qui, moi, j'ai beaucoup aimé. Puis aussi un côté, je parlais plutôt que je rencontre souvent des développeurs, des gens dans le monde du jeu vidéo et tout. Ouais. J'ai eu la chance de rencontrer les gens qui ont créé The Last of Us avant sa sortie. J'ai eu la chance de faire des entrevues avec Neil Druckmann, avec, comment il s'appelle, j'ai oublié son prénom, oh mon Dieu, Ashley Johnson, c'est celle qui fait Ellie.
Oui, c'est ça.
Je l'ai rencontré. Puis ce que j'ai beaucoup aimé dans la, puis on va revenir au jeu puis pourquoi je l'aime, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans l'entrevue que j'ai fait avec Néan, je dis Néan comme si c'était mon grand ami.
c'est le poteau.
c'est que il est en train de te parler, il te présente son projet. Puis il espère que tu vas l'aimer aussi. Il est dans un mode comme hey, écoute, j'ai mis mon cœur, mon soul là-dessus, puis on a travaillé fort, puis on vous montre notre bébé, puis on espère que vous allez l'apprécier. Puis j'ai trouvé ça vraiment génial parce que moi j'ai eu la chance de faire des entrevues souvent avec des gens dans le monde du cinéma. Puis ça m'a beaucoup rappelé deux personnes à qui j'ai fait des entrevues. À l'époque, Denis Villeneuve, vous connaissez québécois, oui. Qui a fait Blade Runner, Dune, je pense qu'il va sortir bientôt. Oui. Incendie, très très bon film. Si vous avez pas vu Incendie, c'est excellent. Puis j'ai aussi
Ennemi aussi, je crois, non? Un très gros film avec
Oui, exact.
Jay Gyllenhaal.
Ah, exactement. Donc il a fait pas mal de films. Mais c'est la personnalité. Puis un autre aussi que j'ai rencontré qui était aussi du même type, je trouvais, c'était Luc Besson, qui était genre un enfant. Tu sais, c'est vraiment comme hey, je fais ça, est-ce que tu l'aimes? J'espère que. Tu sais, quand j'ai fait l'entrevue avec. Puis je sais qu'il est arrivé plein de trucs, je sais pas exactement le personnage lui-même, mais qu'est-ce qui est arrivé entre temps, je sais pas, mais moi je vous parle de l'entrevue, la personne que j'ai rencontrée. excuse-moi. Quand j'ai c'était quoi c'est Valérian je pense son film qui a fait qui était ouais je me suis assis puis j'ai encore des images dernièrement c'est parce que j'étais en train de tourner un truc j'ai ressorti les vieux enregistrements puis j'ai trouvé cette entrevue là puis je lui pose la question la première chose qu'il me dit quand on s'assoit pour faire l'entrevue c'est ah vous avez vu puis comment vous avez trouvé ça vous avez vu les effets spéciaux qu'on a ajoutés on vient de les avoir mis c'est fait depuis ce matin ça vous êtes chanceux vous venez puis la passion de quelqu'un comme un enfant qui est comme hey tu t'as vu mon jouet que j'ai fait tu l'aimes ou quoi
ouais.
Exactement puis c'est ce que j'ai trouvé beaucoup avec Neil Druckmann quand j'ai fait l'entrevue puis avec les gens qui étaient autour de ce projet là puis vous le savez dans le monde du jeu vidéo quand tu crées un projet c'est des années là de travail tu sais c'est des équipes serrées qui sont là pendant 2, 3, 4 ans des fois 5 ans à créer un jeu puis là, il ouvre ça au monde, puis il dit, voici, on vous présente notre bébé. Est-ce que vous l'aimez? Donc, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est que tu lui dises, ah, c'est cool. Puis bon, écoute, si la critique arrive, ils le prennent quand ils peuvent. Mais c'était une des choses qui m'a beaucoup, je pourrais dire, touché ou impressionné quand j'ai fait la rencontre de ces gens-là. Puis aussi le fait que bon ils nous ont amenés à Los Angeles à Santa Monica pour aller tu sais il te faut rêver là t'arrives dans la salle c'est tout décoré dans un monde tu sais The Last of Us et tout c'était cool je me rappelle une autre anecdote The Last of Us 2 quand ils ont présenté le Last of Us 2 c'était au E3 je pense que c'est 2018 ou 2019 je pense que c'est 2018 ils nous ont mis puis c'est la première fois que Sony faisait une conférence de presse où on n'était pas assis dans une seule salle. On se promenait d'une salle à une autre. Okay. Puis, à un moment donné, on arrive dans cette salle-là, qui est comme un genre de bar, comme un genre de cabane un peu étrange, avec des décorations en haut. Puis là, on est tout cram, là, tous les journalistes, on est tous là, puis on se demande qu'est-ce que c'est quoi. Puis c'était en fait, je sais pas si vous me rappelez cette partie-là dans The Last of Us 2, où c'est la première fois que tu vois Ellie qui embrasse son amie, l'autre fille.
Dina.
Là, tu te rends Dina, exactement.
Mais moi, je vois. Je sais pas jouer, je vois.
Ouais.
Des let's play.
Ouais, c'est ça. Puis c'était ils avaient reproduit cette pièce-là, ce genre de bar et tout. Fait que on se retrouvait. Puis nous, on avait encore aucune image de The Last of Us. Là. C'était la première fois qu'on allait voir The Last of Us. On arrive dans cette pièce-là. Puis là, ils nous montrent les premières images du cutscene, gameplay et tout. Fait que c'était comme « wow ». Fait que il y a aussi le fait que Sony, en général, et Santa Monica Studio, les studios de Sony, sont très forts dans le marketing, promotion, nous faire, tu sais, rendre ça très, très beau et tout, lavage. Puis, on arrive là, ils misent dans le monde aussi. Ça revient beaucoup à un thème que je parlais tout à l'heure de VR. J'aime beaucoup être immiscé dans un monde. Quand je joue à un jeu, puis j'ai l'impression que dans The Last of Us, je me suis vraiment mis dans la peau des personnages. J'aime le 2 aussi. Le premier, je l'ai beaucoup aimé juste parce que c'était une introduction à ce monde-là, c'était une introduction okay. à qu'est-ce qui se passe si le tout fout en l'air là, tu sais tout bascule, comment les gens, comment on va réagir, comment puis tu sais je sais que c'était à la mode ce genre de, il y avait des émissions de télé tu sais sur des trucs de zombies et tout là, oui. Tu sais c'était très très à la mode, mais je trouvais que c'était intéressant de cette perception-là, eux, comment ils faisaient. Puis c'était pas des zombies pour être des zombies, là. Tu sais, il y avait vraiment autre chose. Il y a les clickers. Tu sais, il y a différents types de bibites, si on veut. Donc ça, je trouvais ça vraiment cool. Donc, ouais, le The Last of Us, pour moi, c'est ça. C'est vraiment un monde riche. Des personnages très poussés. Puis évidemment, un gameplay intéressant. Dans The Last of Us 2, ils te font faire des choix. Oui. Tu te rends compte que finalement, tous les gens que tu pensais qui étaient gentils, qui étaient des bonnes personnes, tout ça, là, tu commences à te reposer des questions. Est-ce qu'ils sont vraiment gentils? Est-ce que, tu sais, on a chacun une vision des choses différentes. Donc ça, c'est très cool. C'est très adulte aussi. Exactement. Je pense que c'est ça que j'aime aussi avec ce genre de jeu-là, c'est que on est rendu à un médium qui est pas un tu sais, oui, il y a du Fortnite, puis oui, il y a du, tu sais, du il y a plein d'autres jeux là pour enfants et tout, tu sais, qui sont très plus enfantins, mais il y a des jeux beaucoup plus poussés parce que les gens qui jouent à des jeux vidéo sont de plus en plus vieux, vieillissent avec ça, donc ça te prend du contenu pour eux, puis ça te prend du contenu adulte, puis je trouve que The Last of Us c'est très très adulte, donc j'ai beaucoup aimé.
Ça donne encore envie d'y jouer, évidemment. Je n'ai toujours pas de PlayStation.
Ah, il faut jouer, ouais. Ah, pourquoi, moi, je t'envoie une PC, je t'envoie une PlayStation, allez!
Non, je déteste les jeux, genre, tu sais, qui sont exclusifs. Tu vois, même, j'ai toujours pesté, même si j'avais des Xbox, j'ai toujours pesté contre Halo. Et là, le fait qu'ils ont enfin fini par mettre ça sur PC, je suis là, genre, bah, c'est cool. Et moi, j'ai toujours pensé qu'avec un PC, je pourrais tout faire, mais c'est pas le cas. Et à chaque fois, il faut une console, mais tu sais, genre, je trouve ça triste d'avoir une console et tu sais, de la laisser, genre, pourrir, entre guillemets, et d'avoir, genre, un jeu, enfin. Avant, je jouais à FIFA, on va dire. Du coup, je l'utilisais souvent, mais je joue plus à FIFA. J'ai un PC. Et ouais. Ça donne envie de jouer, encore une fois, genre The Last of Us 1 et 2. Là, mais j'étais déjà en train de penser, parce que j'ai une pote qui m'en avait parlé en France. Puis je me suis dit, peut-être le moment où je vais rentrer, je pourrais passer genre mes soirées avec elle, on joue ensemble. Tu vois.
Ouais, c'est une bonne excuse.
C'est ça. Hein? J'étais en train de préparer, tu vois.
Après Netflix and Chill, ça va être Last of Us and Chill.
Ouais. Mais, non, mais pour le coup, ça donne envie de jouer, quoi.
C'est... Ouais, non, je peux voir.
On arrive déjà là sur les questions de la fin.
Oui.
Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi les jeux auxquels tu joues en ce moment, s'il y en a?
Ah oui, en ce moment, je joue à Resident Evil 8. Je viens tout juste de terminer. Ouais. Mais là, je joue au Mercenary Mode. Okay. Donc, c'est ce que
déjà?
Je joue un peu à ça. Mm-hmm. Ouais, je suis là-dessus. Je joue beaucoup à FIFA. En fait, je suis revenu à FIFA. C'est drôle. FIFA 21. Je joue les modes Champions League et tout. Pourquoi? Parce que là, il y a beaucoup de pubs en ce moment par rapport à l'Euro qui arrive bientôt. Mm-hmm. Bon, là, ça m'a comme mis dans un mode, allez, ouais, FIFA, yeah, on va se l'ouvrir, on va se le faire. Donc, je joue un peu à FIFA, puis je joue beaucoup, je parle un peu plus tôt, je joue beaucoup avec mes enfants à des jeux. Mm-hmm. Donc, je joue beaucoup à Minecraft Dungeon. Moi, je suis un grand fan de Diablo, surtout Diablo 2 à l'époque. Donc, c'est un peu, dans le fond, c'est Diablo meet Minecraft. C'est excellent comme jeu.
Moi, j'ai envie d'y jouer, mais je trouve pas de personne avec qui jouer. J'ai trop envie de jouer à Minecraft Dungeon.
Ouais, c'est génial. Ce
avec le Game Pass en plus.
Ouais, Game Pass, exactement. Tu peux jouer avec le Game Pass. Mais c'est cool parce que tu peux jouer jusqu'à 4 personnes. Nous, on joue Couch Co-op, si tu veux. C'est toute la petite famille, là. Donc, c'est moi, ma femme, les deux, 7 ans, 6 ans, avec la manette, on joue. Des fois, c'est un peu compliqué parce qu'ils suivent pas nos stratégies, puis eux, ils font n'importe quoi. Mais sinon, c'est cool. Ça fait une expérience avec eux. Puis pour boucler la boucle, en fait, c'est que ça me rappelle beaucoup avec mon père quand j'étais jeune. C'est lui qui m'a introduit les jeux vidéo. Puis moi, je veux comme un peu passer ça à mes enfants, puis qu'eux aussi, il y a cette passion-là. Je sais pas si un jour, ils vont travailler dans le milieu ou quoi. Ils vont faire ce qu'ils veulent, puis je les force pas. Mais sauf que c'est cool. Je leur montrer un peu ma passion. Puis jusqu'à présent, je pense qu'ils aiment beaucoup le monde des jeux. Quoi.
Super. Bah, est-ce que t'as un mot de la fin ou ça c'est presque parfait, presque voilà, terminé?
Ah non, c'est tout. C'est vraiment le mot de la fin. Écoute, Attends, tu sais quoi, je pourrais dire un truc. À mon plus jeune, même si je disais tout à l'heure, mon père m'a inculqué les jeux vidéo et tout ça, dans mon entourage, c'était pas très cool. Jouer à des jeux vidéo, être quelqu'un qui est dans le monde du jeu vidéo. La plupart de mes amis ne jouent pas à des jeux vidéo. Mais ce qui est cool maintenant, c'est de voir comment ce médium-là est beaucoup évolué. Que c'est très cool, c'est un monde qui est très diversifié, il y a beaucoup de gens qui jouent à des jeux vidéo de toutes sortes de religions, de sexe, de couleurs, tout. Donc c'est vraiment cool de voir ce milieu-là se développer. Puis j'ai bien hâte de voir, parce qu'on est encore à la genèse, hein, je pense qu'on est encore, le monde du jeu vidéo est encore à l'adolescence. Et on a encore beaucoup à voir, puis ce monde-là va devenir vraiment beaucoup plus mainstream. Ça va être bien de voir quand j'étais un papy sur ma chaise berçante, ça serait cool. J'adore ce monde-là. Puis je vais, tu sais, toute ma vie est autour de ça. Donc j'adore.
Top. Ben, merci beaucoup, Carl Edwin.
Merci.
Merci à vous.
Merci à vous.
Et on se dit à une prochaine.
À la prochaine.
Ciao. À la prochaine.
C'était Du Temps et des Jeux. Musique composée par Baxter. Si tu apprécies le podcast, parle-en à un ou une pote et partage-le sur les réseaux. Tu peux aussi nous mettre 5 étoiles et nous laisser un avis positif sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Enfin, tu peux nous suivre sur les réseaux. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Allez, à la prochaine !